Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et bienvenue à Marcher vers le bien-être. Je vous propose aujourd'hui une fascinante exploration de la marche comme moyen d'amener des jeunes en difficulté, en rupture sociale et souvent plongés dans un désespoir, à devenir les acteurs de leur propre réinsertion sociale et à réinventer leur vie. Nous le ferons par le biais d'une conversation autour d'un projet unique lancé en France au début des années 2000 par Bernard Olivier, le fondateur d'un concept révolutionnaire de marche de longue durée avec accompagnateur qu'il a baptisé « Seuil ». Qui de mieux pour décrire cette initiative remarquable que Bernard Olivier lui-même? Écoutons-le décrire son parcours. Quand je suis arrivé à l'âge de la retraite, je me suis rendu compte que je n'avais aucun projet. J'étais toujours dans la douleur de la perte de ma femme. En profonde dépression au bord du suicide, j'ai décidé de fuir, mais de fuir sur le chemin de Compostelle. C'était en 1998, et l'idée de Seuil est née sur ce chemin, de la rencontre que j'ai faite avec deux jeunes délinquants belges à qui un juge intelligent avait proposé ce marché. La marche ou la prison? Le bonheur de ces deux adolescents, l'attention, voire l'admiration qu'on leur portait, montrait que le juge avait vu juste. L'enfermement n'est pas la solution. Le sentiment de liberté qu'offre la randonnée, le bonheur de se dépasser et surtout les rencontres qu'elle procure sont la vraie voie vers la résilience, cette capacité à se remettre d'un traumatisme. Au fil des ans, le projet de Bernard Olivier a connu un succès grandissant et a été imité dans d'autres pays. Il est même possible qu'elle traverse l'Atlantique grâce à l'initiative de notre invitée d'aujourd'hui, Anne Saint-Hilaire, présidente et fondatrice du centre La Tienda. Bonjour Anne, et merci de prendre le temps pour nous parler de votre enthousiasme pour l'esprit du projet Seuil et de votre vision pour un projet semblable, possiblement chez nous. Alors, Anne, bonjour.
Bonjour, Denis.
Plaisir de vous revoir encore.
Toujours, oui.
J'aimerais amorcer notre conversation en vous demandant ce qui vous a séduit du projet de Bernard Olivier. Qu'est-ce qui vous a incité à vouloir lancer une formule semblable pour les jeunes d'ici?
C'est grâce, oui, je dirais au chemin de Compostelle, grâce à mon observation de la vie des jeunes. Je suis grand-maman, je vois les jeunes grandir, je suis propriétaire d'une entreprise avec la porte ouverte où on accueille de tous âges des jeunes qui sont en recherche du chemin, en recherche d'un sens, et d'autres qui, malheureusement, décrochent de l'école et se cherchent eux autres aussi un sens. C'est triste. On a même sauvé avec, mon Dieu, c'était un moment très, très troublant. Une jeune fille est rentrée un jour à la tienda et elle a pris un café parce qu'on a un comptoir café. Mm-hmm. Je lui ai proposé un livre. Je suis revenue la voir. J'ai jasé avec elle. Jasé quand même assez longuement. Pour déceler quand même une tristesse dans son regard. Puis à la fin de notre conversation, quand elle s'apprêtait à sortir, elle met la main sur la porte, la referme, puis me dit « Merci, j'allais faire quelque chose de pas correct. Vous venez de me sauver la vie. »
À ce point-là?
C'est troublant. Je le dis avec émotion parce que c'est un moment qui va rester gravé dans ma vie tout le temps. Il y a, dans le livre de Bernard Olivier, on parle de jeunes délinquants, mais il y a plus que la délinquance dans la vie où on cherche, même adulte, hein, on lit des livres, on va rencontrer des travailleurs de la santé mentale. On dirait que c'est un perpétuel chemin qu'on cherche un sens. Je me dis, si on pouvait être un clin d'œil, une référence, un soutien, parce que ce qui peut nous sauver des fois, c'est justement une conversation, une image, une musique, un livre, une phrase, un regard, une tape sur l'épaule. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre future génération, ceux qui nous suivent, de leur donner un support pour que ce soit plus facile? Le mot « difficile » dans la vie, là, me semble qu'on en a soupé de ça. Plus tu souffres dans la vie, mieux que tu vas être comme personne. Je pense qu'on peut l'enlever de notre chemin, là, puis dire « OK, on peut avoir une vie avec de l'aide, un support, faciliter ce chemin-là pour éviter que, mon Dieu, il arrive à une vie adulte avec un passé lourd, troublé. Pourquoi qu'on ne pourrait pas aider pour que ce soit plus facile? » Puis dire « Waouh, j'ai le droit que ce soit plus facile. Pas obligé de me frapper le nez dans la porte pour comprendre des choses, mais de façon subtile. » Et je pense que par la marche, ça a bien été démontré d'ailleurs, je veux dire, la marche, ça te met dans un esprit où, à l'intérieur de toi-même, tu vas arriver à trouver des questions pour trouver des réponses.
Mm-hmm, oui.
Parce que les réponses, souvent, on les connaît. J'aime bien dire, moi je viens du monde des services financiers, la question c'était, est-ce que j'étais bonne en services financiers? Oui. Est-ce que je suis bonne en informatique? Oui. Est-ce que j'aime ça? Non. Je sais tout de suite la réponse.
Mm-hmm.
Mais il y a des questions qu'on a de la misère à trouver. Puis c'est ces questions-là qui sont tellement importantes parce que la réponse, elle va avoir besoin de réflexion. Alors je pense que les chemins de Compostelle, c'est vraiment... Mm-hmm. Parfait. C'est pour en avoir marché des milliers de kilomètres, j'en vois, je le vois, je le sens, je le vis. Alors, je pense que c'est quelque chose qui m'anime de façon intrinsèque. J'étais pas une adolescente facile. Pardon à ma mère, qui est toujours vivante, 93 ans.
Et qui sera à l'écoute.
Elle m'a même dit quand est-ce que ça va passer. Et c'est une femme pleine de résilience. Et je me dis, mon Dieu, merci de m'avoir accepté. Mais aujourd'hui, si je peux redonner la facilité à des jeunes, ben, je pense que je pourrais vieillir vraiment très fièrement.
Donc, c'est l'inspiration que vous avez tirée de ce projet de Bernard Olivier, le projet Seuil.
Oui, exactement. Et quand j'ai lu ça dans le livre de Bernard Olivier, j'étais, waouh, quelqu'un a fait un projet comme ça. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et dans mes nombreux chemins de Compostelle, j'ai eu la chance de rencontrer un grand jeune qui faisait partie de ce programme-là.
Ah.
Ça, c'était une rencontre belle extraordinaire. Expérience. Oui, définitivement.
Parlons justement de ce programme de Seuil. Il semble y avoir quatre composantes importantes. D'abord, c'est une approche personnalisée, c'est-à-dire que le jeune ou la jeune, en fait, est toute seule à marcher, bien sûr.
Il est seul, mais accompagné. C'est ce qu'on aime dire aussi. Quand on part sur les chemins de Compostelle, accompagné, c'est pas qu'on marche toujours main dans la main, dans la même bulle. C'est tellement important de ressentir sa bulle pour avoir l'espace, s'offrir l'espace de réflexion, d'admiration, de contemplation, aller à son rythme. Alors, comme le jeune que j'ai rencontré, il était tellement grand. Je ne suis pas très grande, moi, tout le monde est plus grand que moi, mais lui, il était vraiment grand. Et je lui demande, il était quel âge? Puis il avait 17 ans. Je dis, 17 ans, si grand. Qu'est-ce qui t'amène sur Compostelle? Et il me pointe au loin, la femme qui l'accompagnait. Puis là, il a commencé à me raconter son histoire. Fait que oui, c'est de l'accompagnement, c'est du 1-1 pour Seuil, parce que là, on parle de, quand même de criminalité, on parle de délinquance. Il y a un volet qui est quand même assez particulier. On ne peut pas prendre de chance non plus, parce que c'est des projets qu'on veut réussir, pas qu'on veut tester avec des humains. Là. Alors, c'est super important.
Et il se développe une complicité entre l'accompagnateur, oui, et le jeune, parce que le jeune doit se retrouver tout seul, oui, avec ses pensées,
tellement,
avec ses aspirations, mm-hmm, ses rêves, s'il en a toujours, et avoir cet échange avec l'accompagnateur qui fait en sorte que le jeune puisse être guidé.
Oui.
Oui. Et j'imagine que c'est bon pour l'accompagnateur aussi, comme expérience humaine.
Mais je pense que, hein, on dit, quand on enseigne, on apprend. Et comme on dit aussi, un principe n'est vrai que lorsqu'on y est confronté. Alors, si on ne laisse pas les jeunes se confronter, de quelle façon il peut savoir s'il a vraiment appris.
L'autre aspect important, si j'ai bien compris, c'est la durée de cette longue marche. Ce n'est pas une question de semaines, mais bien de mois. Ça peut aller à 3 ou 4 mois. Ouais. Donc, c'est une période très longue, très prolongée, qui permet probablement aux jeunes de se saisir, de se ressaisir, de voir très profondément lui-même ou elle-même et de repenser sa vie, de revoir sa vie d'une autre perspective.
Et ça prend des kilomètres de marche pour réussir à percevoir les émotions qui nous ont amenés à vivre telle chose. Parce que quand on marche, surtout sur les chemins de Compostelle, tu sais, il y en a qui vont penser que ça, tu marches, tu commences à marcher, puis là, waouh, toute ta tête, elle devient changée comme un ordinateur que tu viens de restaurer, puis que là, les questions arrivent. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est en fait ce qui est dégagé dans notre corps, les hormones, en fait, parce que l'activité physique nous permet de développer la sérotonine, l'endorphine, la dopamine, l'ocytocine, énormément sur le chemin de Compostelle, parce qu'on a, on a tendance à prendre les gens dans nos bras. Alors, ces hormones-là, qui sont à plein dans notre corps, nous permettent, dans la tête, de voir les choses autrement. Il y a des médicaments qui font ça, mais il y a la marche aussi qui le fait très, très bien. Et le fait de marcher longtemps permet d'ancrer ces hormones-là au quotidien. Et le corps le sait. Une journée de marche, bon, là, on y a fait un petit boost d'hormones. Oui, oui. 2 jours, ah ouais, on recommence. 3 jours, hey, ben là, wow. Là, 1 semaine, hey, là, je suis fatiguée, là, j'ai mal, là, c'est quoi que tu commences à me faire faire? 2 semaines, le corps s'habitue. L'endorphine est là. Et là, on continue. 3e semaine, ben là, on ne sait plus, on est-tu lundi, jeudi, on ne sait pas où on est. Et là, le corps, il est comme dans un mouvement qui avance. Et puis là, il sait là, que tu lui demandes physiquement de l'énergie. Ce volet-là cérébral s'en va pour faire place à l'émerveillement. Et c'est là que tu commences à voir avec les yeux et non avec le corps et les souffrances et les douleurs et tout ça.
Et selon vous, le jeune dans le projet Seuil, qu'il soit justement dans ce projet ou Compostelle, c'est la même chose. La réaction physique, chimique est la même. Plus on marche, plus on a cet accroissement de bénéfices.
Oui, je dirais par contre que sur les chemins de Compostelle, on donne une belle vacance à l'organisation cérébrale de la crainte de se perdre, de ne pas arriver, d'être sur le bon ou pas bon chemin. On n'a pas à se questionner. Et ça, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. On suit une flèche jaune en Espagne.
Alors que le jeune, dans le projet Seuil, doit justement, jour après jour, se revoir personnellement, revoir son intérieur.
Exactement. Donc, l'inconscient qui voit la flèche va mettre de côté la peur de se perdre et justement de se dire, bon, OK, je fais l'introspection. J'ai de l'espace pour l'introspection.
L'autre dimension qui me semble intéressante est la distanciation dans ce projet et un peu pour Compostelle aussi. Il y a cet éloignement dans un lieu qui n'est pas familier.
Ouais.
Et nous avons, jusqu'à un certain point, perdu nos points de repère. Et oui, les jeunes dans le projet Seuil se retrouvent en pleine campagne, en montagne, en forêt ou quoi que ce soit. Et souvent, ce sont des jeunes qui sont pris dans le tissu urbain qui n'ont peut-être jamais vu une forêt ou un bord de mer. Donc, la distanciation est très importante.
Oui, perdre ses repères permet d'ouvrir les yeux. Il y a le film L'Auberge espagnole. Je me réfère souvent à ça quand je suis sur cette pensée-là. À un moment donné, il arrive à Barcelone, puis il ne connaît pas la ville et il voit un balcon sous le coin d'une rue. Il dit « OK, ce balcon-là, c'est là, il faut que je tourne. » On ouvre les yeux et on voit des nouvelles choses. On a besoin de se refaire des repères, de se sortir de son milieu connu. On ouvre les oreilles, on ouvre les yeux, on observe. Et parce qu'on a toujours cette crainte de se perdre dans la vie. c'est la pyramide de Maslow. On a besoin de se sentir en sécurité.
Donc, il y a toujours ce parallèle entre les points de repère physiques et les points de repère émotifs, émotionnels, cérébraux, et ainsi
exactement.
De suite.
Et de faire confiance aussi, de se faire confiance.
Est-ce qu'on peut dire que le projet Seuil est une grande aventure pour le jeune?
Oui, puis je pense que c'est une grande aventure, c'est un point de départ pour le reste d'une vie qui n'est pas négligeable.
Qui peut tout transformer.
Définitivement. Est-ce que ça va fonctionner pour tout le monde? Peut-être pas au moment qu'on le souhaite, nous, si on enclenche un projet comme ça. Mais on sait très bien, tout le monde, je suis certaine, a un jour vécu un flash quelconque dans sa vie et qui réapparaît des dizaines d'années après. Puis on se dit, ah ouais, j'avais eu ce signe-là quand j'étais jeune.
Oui.
Bon, mais ça se fait pas de façon instantanée. Alors, si un projet comme celui-là peut aider pour le futur, ben, tant mieux. Le futur, il est futur éloigné, simple, demain, on le sait pas. Le temps n'existe pas de toute façon, mais laissons s'imprégner, mais faisons quelque chose. Moi, je suis pour l'action, je suis pas pour s'auto-élever, là. Ça prend du temps.
Donc, le temps et la distance.
Oui.
C'est la recette magique, il semble, du projet Seuil et peut-être de votre projet auquel nous allons revenir juste après la pause. Nous sommes de retour avec Saint-Hilaire. Alors, Anne, nous allons maintenant considérer votre projet, ce qui se trotte dans cette belle tête là, qui est la vôtre. Alors, ce projet Seuil de Bernard Olivier se transposerait comment ici, à votre avis?
Seuil existe. On laisse donc à Bernard Olivier la beauté de cette fondation-là. C'est parfait. L'inspiration que j'en ai, c'est justement de permettre à nos jeunes d'ici, au Québec, bien sûr. On ne sait pas si ce sera Canada ou quoi, mais on commence toujours
chez
par
nous.
Exactement.
C'est ça.
Pour aider justement, comme je disais tantôt, la clientèle les jeunes qui viennent à la tienda, je sais qu'il en existe. J'ai aussi la chance d'accueillir des travailleurs sociaux qui viennent parce qu'ils veulent voyager et qu'on aide. Et par la conversation, on se rend compte que eux travaillent avec des jeunes qui ont besoin d'aide. Mm-hmm. J'ai reçu, il y a peut-être 3 ans, un jeune garçon qui vendait des bracelets qu'il avait fabriqués pour se faire un peu de sous. Il n'aime pas l'école. Fait qu'il essaie de trouver un moyen pour se faire des sous. Fait que je lui en achète et on commence à les vendre. Pandémie arrive, c'est fermé, bref. V'là peut-être 2 mois, un grand garçon arrive. Bonjour, j'avais apporté des bracelets et j'aimerais savoir si vous en avez vendu. Je dis, mon Dieu, mais c'est parce que j'étais plus grande que toi, là. Il était super grand. Alors, donc, je commence à parler. Puis là, il me dit qu'il a quitté l'école parce qu'il n'était pas bon. Fait qu'imagine, il quitte l'école. L'école n'est pas adaptée à un jeune comme celui-là. Je connais en même temps, en parallèle, son travailleur social qui est justement quelqu'un qui est parti voyager dans le monde et qui s'est équipé à la tienda. Je fais le parallèle et je me dis, mais mon Dieu, justement, pourquoi qu'on joindrait pas cet utile à l'agréable-là d'un jeune qui est super brillant, vraiment intelligent, mais qui a de la misère en mathématiques? Est-ce que c'est une mauvaise personne? Non, c'est un futur adulte de demain qui a juste besoin de se retrouver dans un monde d'éducation, dans une autre forme. Alors, je ne veux pas viser une clientèle délinquante. Ça fait pas partie de
c'est pas dans votre nature.
C'est pas dans ma nature, non. Mais d'aider des jeunes qui, justement, en décrochage scolaire, au niveau financier, parce que c'est pas tout le monde non plus qui ont des parents qui ont de l'argent. Puis ça, c'est... Tu sais, l'argent, on a beau dire que ça arrange pas tout, mais ça peut aider aussi. On peut partir en sandales, faire Compostelle avec un baluchon. Oui, c'est sûr, mais ça sera pas confortable. Il y a des gens à la retraite de plus en plus, on le sait, les baby boomers sont là, qui ont des sous, qui sont prêts à aider. Mais aider qui? Aider comment? Alors, j'aimerais ça qu'on devienne une plateforme où il y aura l'entraide. Tu sais, il y a dans les pays, on dit que les villages élèvent les enfants.
Mm-hmm. Oui.
Mais on l'a pas, ça, ici, ce sentiment-là. Alors, ça serait justement de le créer, notre village qui aiderait des jeunes.
Notre communauté.
Une communauté, exactement, qui pourrait aider des jeunes. Et ça sera à voir avec les travailleurs sociaux, avec les éducateurs, avec, je veux dire, il y en a des professionnels. Et hier, comme quoi, il n'y a pas de hasard, il y avait un professeur d'éducation physique qui arrive à la tienda, puis que là, on commence à jaser. Écoute, il y a déjà sa classe avec qui voudrait amener faire le chemin parce qu'il est éducateur physique. Il sait que bouger est important. Décrocher les jeunes des ordinateurs et des téléphones, ça, j'en ferais quasiment une mission personnelle. Tu sais, dans le temps, on nous punissait, on disait « va jouer dehors ». Plutôt l'inverse.
Oui, oui,
on nous punissait, on disait « rentre dans la maison ». Aujourd'hui, on veut punir un jeune, on dit « va jouer dehors ».
Assis dans le coin, bouge pas.
Exactement. Alors, si on pouvait changer cette punition d'aller dehors en plaisir, en créer un monde meilleur avec les futures générations, justement. Il y a tellement d'études qui le disent, les jeunes, lâcher les ordinateurs, les téléphones, la lumière bleue et tout ce qui va avec, la violence, les jeux vidéo, prends de l'air, va énergiser ta tête, tes hormones et tout ça. Donc, s'il peut y avoir des adultes qui accompagnent des jeunes, je le vois pas un nécessairement pour ce qui est de ce projet-là. Je le vois plutôt en jumeler un adulte avec un jeune, mais dans un petit groupe.
Est-ce que la durée serait semblable?
C'est sûr que là, envoyer des jeunes 3 mois, ça commence à être un peu... Ouais, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. Mais 3 semaines minimum, ça, c'est certain que c'est ce que je souhaiterais.
Et c'est déjà une bonne durée pour les jeunes.
Oui, 3 semaines, on le vit avec des clients. Déjà en 3 semaines, on ressent le désir de vouloir au moins y retourner.
On peut amorcer ce changement.
Exactement. Si ça peut être une graine favorable, qu'on peut arroser de joie, d'aide, de soutien, autant financier que psychologique, moral, émotionnel, d'avoir des buts. Hein, ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile aussi. Avoir un objectif. Tu sais, j'aime bien cette chère phrase pour les gens qui me connaissent, que je dis tout le temps, que mon père m'a apprise. Quand on veut, on fait. Et non, on peut. Parce qu'on peut pouvoir toute notre vie et jamais rien faire.
Quand on veut, on fait.
Quand on veut, on fait. Et moi, je rajoute, quand on sait le pourquoi, on trouve le comment.
Je trouve intéressant que dans le programme Seuil, par exemple, la distanciation comprend le fait que le jeune n'a plus accès à son cellulaire, le téléphone, la tablette ou quoi que ce soit. Donc, complètement coupé du monde et ramené
du monde virtuel.
Le monde virtuel, oui. En fait, s'il marche tout seul avec son accompagnateur, il est un peu aussi coupé du monde, quoique on revient toujours à une destination quelconque en cours de route. Mais cet aspect-là, pour vous, est probablement important.
Très important. Pour moi, il est très, très important. Il y avait à un moment donné un reportage d'un professeur de français qui avait demandé à ses élèves de lire un livre. Et quand ils l'ont lu, elle leur a demandé de discuter du livre en classe. Personne n'était capable de dire quelque chose. Personne. Et là, elle a dit, OK, prenez vos tablettes, on va échanger par ordinateur. Et là, tout le monde avait quelque chose à dire. Comme quoi, la parole, de s'exprimer, ça devient comme difficile. Et d'apprendre à un jeune à exprimer ses émotions, il y en a qui sont capables, mais il y en a d'autres qui ont de la difficulté et c'est bloqué.
Et ça, vous le voyez régulièrement.
Ah, oui. C'est pas évident, même pour des adultes, de trouver l'émotion qui...
J'allais dire, oui. Même des adultes ont de la difficulté à s'exprimer
exactement.
Émotivement.
Oui. Puis pourquoi on est rendu adulte et qu'on a de la difficulté à s'exprimer? Pourquoi? C'est une autre question aussi à se poser. Alors, à l'école, les professeurs n'ont pas le temps de faire de cette éducation-là. Ils sont débordés. Et avec la COVID et avec le monde d'aujourd'hui, je leur lève mon chapeau. Et il y a des professeurs en épuisement professionnel. J'en recevais une hier encore à la Tienda. C'est épouvantable de voir ce que ça a créé en même temps. Fait que là, on est un post-COVID avec tout ce qui était avant déjà problématique, mais là, qui est amplifié. Alors, si on peut donner de l'air, tu sais, prendre de l'air, hein, va marcher, va prendre de l'air, ça fait du bien. Si c'est obligé, ben tant mieux. Et je me ramène en même temps à ce qui m'a amené sur Compostelle, qui était l'ablation de la glande thyroïde. Et j'étais 2 ans en arrêt de travail, j'avais une ergothérapeute en santé mentale qui venait à la maison pour m'aider à remonter la pente, comme on dit. Et elle me suggérait fortement des activités. Ah, ça prenait tout mon change. Là, je disais, la madame, elle s'en vient, il faut que je fasse mes devoirs, la madame, elle s'en vient, elle va se reconnaître si elle écoute. Et finalement, je les faisais, j'avais pas le choix, on me le demandait. Alors, de demander à quelqu'un de faire quelque chose, des fois, ça peut être juste ça qui va changer la vie d'une personne.
Ce que je constate être la force d'un projet comme le vôtre, c'est l'aspect communautaire. Donc, ce n'est pas une personne accompagnée, de l'accompagnateur, évidemment, mais c'est un effort vraiment communautaire qui pourrait venir en soutien aux jeunes post-projet, post-marche de longue durée.
Il y a avant Compostelle, pendant et après. Et ça, le après, il est très, très important.
Et ce serait la même chose, en fait, reporté sur votre projet.
Exactement. Ouais. Il y a un suivi à faire. On veut continuer de vivre de ces pulsations émotionnelles qui s'appellent Compostelle. Ça, c'est certain. Tous ceux qui ont marché Compostelle, qui écoutent, vont le savoir. C'est un manque. Notre corps, notre âme est en manque de marcher toujours en avant, toujours par en avant. Toujours droit devant, toujours pour arriver au bout de la terre, en rencontrant l'international, en nous énergisant de cette énergie, en marchant dans les pas des gens qui étaient en avant de nous depuis des milliers d'années. Je veux dire, il y a une énergie émotionnelle qui se retrouve et je pense qu'on peut, favorablement amener des jeunes à ouvrir leur cœur, les yeux. L'énergie. La marche, c'est de la santé mentale. Et si tout le monde marchait, c'est certain qu'on aurait un monde meilleur, c'est garanti.
Et on en parlera un tout petit peu plus tard lors de notre conversation, mais je reviens, vous faites beaucoup le parallèle entre Seuil et votre projet et Compostelle. Est-ce dire que dans un projet comme le vôtre, à venir, il y aurait une longue marche ou une longue randonnée dans un cadre autre que celui du Québec? Est-ce que ça serait dans un autre pays? Vous le voyez à l'extérieur?
Oui, je le vois vraiment en Espagne. Je le vois
pour la distanciation, pour la perte de repères.
Oui, exactement. Et l'infrastructure qu'il y a déjà sur ces chemins-là, en ayant un début de chemin officiel, et en ayant une fin de chemin, un tracé de 3 semaines que je connais bien. Pour encore là que ce soit plus facile, le mot plus facile, c'est de l'exploiter davantage. Que ce soit plus facile, agréable, léger. Parce que même si c'est facile, agréable, léger, il faut quand même le marcher.
Éventuellement.
Et 20 km par jour, ça ne s'achète pas.
Oui.
Et ça ne se fait pas pour les autres. Alors, ça part du cœur, des pieds, et ça monte à la tête, définitivement.
Et encore une fois, les ressources, selon vous, viendraient de la communauté?
Oui, de la communauté. Je sais qu'il y a des grands intéressés, et ceux qui me connaissent, ils le savent. Quand j'ai un projet dans le cœur, ils voient le jour, c'est certain. On va enclencher ces beaux projets-là dans l'année qui s'en vient. En parallèle aussi, il y a les jeunes et il y a les jeunes, en fait, comme j'aime dire, hein, être vieux, c'est être jeune depuis longtemps. Alors, il y en a des jeunes depuis plus longtemps qui, eux aussi, ont besoin d'aller prendre une marche. Alors, pour moi, c'est la santé mentale, que ce soit des jeunes ou que ce soit des plus âgés, des professionnels, la prévention de l'épuisement professionnel. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'est certain que dans les prochaines années, ça va être ce service-là que je souhaite vraiment dégager de l'entreprise au nom de la santé mentale parce que j'ai failli ne pas être là pour en parler à cause de cette opération-là ou je pourrais dire grâce à cette opération-là qui m'a jeté par terre. Et de faire vraiment, oui, un volet qui... Le Seuil, c'est vraiment une inspiration, c'est un élément déclencheur, mais ça va être quelque chose de différent pour ce qui est de notre projet à nous. On ne l'appellera pas le Seuil, mais j'ai bien hâte de rencontrer Bernard Olivier. Oui.
J'allais vous poser la question, comment allez-vous baptiser votre projet? Je pense que nous n'aurons pas la réponse aujourd'hui.
C'est certain que non.
Mais je vous souhaite de rencontrer Bernard Olivier.
Oui, en fait, encore là, quand on veut, on fait. J'ai eu des rencontres extraordinaires dans ma vie qui semblaient inatteignables, puis je vous le dis, inatteignables, et que je me suis retrouvée face avec cette personne à rencontrer. Plusieurs personnes qu'on dit inatteignables, ce sont des humains, comme vous et moi. Mm-hmm. Et on est des humains atteignables. Il faut juste trouver le chemin pour s'y rendre.
Nous prenons une courte pause et nous allons vous rendre visite au Centre La Tienda. Nous sommes de retour avec Anne Saint-Hilaire. Anne, je profite de votre présence aujourd'hui pour aborder l'aspect un tout petit peu plus large des bienfaits de la marche. Pour vous, pour moi, en fait, pour tout le monde. Et le centre de La Tienda, que je connais assez bien et que vous avez créé il y a une dizaine d'années, je crois, Pour ma part, c'est devenu un espèce de centre communautaire. Il y a un va-et-vient incroyable dans la communauté. Et il me semble que vous êtes bien placé pour apprécier l'impact de la marche sur les personnes qui vous rendent visite et lors d'achats de conférences, de séminaires et de vos activités de marche de longue durée un peu partout. Ce qui m'intrigue, c'est pour vous personnellement, comment la marche a-t-elle changé votre vie? Quel bienfait en avez-vous tiré?
La marche, l'appel de Compostelle dans mon cas, c'était trouver une solution pour, perdre mes repères, mais c'était d'abord physique. De sortir tous les médicaments qu'on m'avait fortement donnés, en fait, et qui étaient néfastes dans mon cas. Alors, j'étais une adepte du vélo avant mon opération. Je faisais du spinning 3 fois par semaine. Spinning, ceux qui en font savent qu'on transpire notre vie dans ça. Et c'était cette image-là qui m'était restée quand je voulais m'en sortir. Je me disais, comment je pourrais faire pour transpirer ces médicaments-là? Et là, c'est là que j'ai eu l'appel de faire Compostelle.
Donc, avant Compostelle, la marche n'était pas nécessairement votre activité sportive de prédilection.
C'était trop lent. C'était bien trop long. Oui. C'était, non. Moi, c'était spinning, vélo. On m'appelait la locomotive. Je clippais mes souliers de vélo. Je partais et ça allait vite. La vie, vite. Oui, jusqu'à ce que, justement, c'est comme la vie te rentre dans un mur, puis là, tu dois t'arrêter.
Donc, c'est la lenteur. Qu'est-ce que la lenteur vous a apporté?
La lenteur, c'est magique. C'est magique. C'est une opportunité d'ouvrir les yeux, les sens, les cellules de votre corps. Respirez ce qui vous entoure. Je suis une kinesthésique. Je suis hypersensible. Et par la lenteur, on se rend compte, justement, qu'on peut observer et accueillir ce que la nature ou les gens ou le paysage peut vous offrir. Et que les hormones ont de la place parce qu'on n'est pas tendu, on est détendu. Alors là, il y a une place à l'émerveillement et, mon Dieu, ça fait tellement une différence. Et j'invite les gens qui nous écoutent à essayer, puis je pense que vous en avez déjà abordé le Shinrin-yoku, ralentissez, puis on aimerait ça tout le monde ralentir, hein? Mm-hmm. Ben, il n'y a rien qui va ralentir si vous ne ralentissez pas, hein? C'est notre décision, c'est vous qui décidez.
Nous sommes maîtres de nous-mêmes.
Exactement. Alors donc, la marche permet aussi la rencontre humaine, parce qu'en vélo, t'as pas le temps de parler.
Salut, comment ça va?
C'est juste un coup de bail.
Oui.
Alors, à la tienda, les gens, pour revenir à votre introduction de la question, on s'en rend compte que c'est un centre d'accueil. J'aime quasiment dire ça maintenant. Là, on a tellement entendu parler dans le COVID. C'est des centres d'accueil. En fait, la tienda, c'est un centre d'accueil de gens qui ont le goût de partager. J'avais une employée hier qui disait, c'est le fun à la tienda parce que, justement, tu sais, on va dans un restaurant, on est à notre table, on parle avec nos amis si on en a ou personne. Un café, c'est la même chose. Tu arrives à un café, tu prends ton café. À la tienda, c'est que tu arrives et tu jases avec le monde. Il n'y en a pas d'endroit comme ça où tu arrives et là, il y a quelqu'un, alors tu vas enclencher une conversation. C'est un accueil à l'ouverture, c'est briser l'isolement. C'est accompagner les gens dans la création de leurs rêves, c'est réussir par l'accompagnement personnalisé dans la légèreté d'accomplir un rêve de marche de longue durée. Le prise en charge, le prise en main, puis encore là, je le redis, on ne peut pas marcher pour les gens, mais on peut alléger leur chemin, par exemple. Et ça, ben, c'est noble comme travail. Je suis remplie de gratitude quand je vois les gens tellement heureux juste de se sentir accueillir. Tu sais, je pense qu'on aime ça. Tous ceux qui ont eu une expérience dans un commerce où il y avait un accueil extraordinaire, on s'en rappelle.
Toujours, oui.
Et à l'inverse aussi. Si t'as pas d'accueil, tu t'en rappelles. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un souvenir agréable. C'est comme arriver chez soi, en fait. Hein. C'est un local où, tu sais, c'est grand, il y a le comptoir café, il y a le piano, il y a la table. Oui, la marchandise, toute la marchandise pour aller marcher. Mais elle est positionnée en, de sorte que c'est pas ça qui paraît quand on rentre. Mais on a tout. C'est comme sortir des trésors. Là, tu sais. Alors, voilà ton sac à dos, parfait, tu peux aller marcher, go.
Il me semble que le point de mire, c'est vraiment l'interaction entre les gens. Oui. Les écrans, la table, les chaises. Les gens y vont, même évidemment s'ils n'achètent rien. C'est surtout, et parfois, pour jaser, discuter,
échanger. Et le rêve naît. En fait, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais vous êtes la propriétaire, vous avez marché plusieurs fois les chemins de Compostelle. » vous devez vraiment être en forme, vous devez marcher super vite. Et là, je leur dis, puis je vous dis, ceux qui écoutent, ben non. Moi, là, je suis tout le temps en dernier. Je prends des photos, j'ase aux gens, je sens les fleurs, je touche à l'eau. L'idée, c'est de justement ralentir. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, « Marcheur, il n'y a pas de chemin, se fait le chemin en marchant. » Alors, les gens viennent se réconforter que c'est pas une performance par Compostelle. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire quand ils repartent et qu'ils disent « Ah, waouh, ça veut dire que j'aurai des chances de le faire. Si j'ai eu des cancers, je peux le faire. Si j'ai un problème d'os, de dos, d'hernie, je pourrais le faire. Oui, vous pouvez le faire. C'est un pas à la fois. C'est du sur-mesure. Vous n'êtes pas obligé de faire 20 km par jour si vous ne pouvez pas le faire. » On a une cliente, elle avait les deux hanches refaites. Elle, c'était du 10 km, 8 km. C'est faisable. Arrêtez de penser que c'est que de la performance, puis on va se perdre. Venez vous réconforter, on va vous prendre dans nos bras, puis on va vous dire, non, tout est faisable, un pas à la fois.
Donc, la marche a changé votre perspective de la vie?
Absolument. Absolument. Alors, comment je pourrais dire, est-ce que ça l'a changé, ça l'a plutôt ouvert la porte? Parce qu'on a dans nous-mêmes des trésors, mais qui sont cachés. Alors, ça l'a simplement ouvert le volet sur la vie. C'est comme ouvrir des volets, là, en Europe, ils ont des volets.
Oui.
On ouvre les volets sur la vie, puis on se rend compte que, waouh, prendre le temps de respirer, ça fait vraiment du bien. Puis apprendre à respirer aussi. Ça, je suis tellement contente d'être devenue une formatrice des marches afghanes, qu'on appelle.
Dont on a parlé à une autre émission, effectivement.
Bon. Alors, ça
de
voir...
L'art de respirer, de bien respirer.
L'art de respirer. Respirer, ça veut dire inspirer et expirer. Et apprendre à marcher, ben ça se fait aussi. Et si tout le monde marchait? Il faudrait composer une chanson là-dessus. Et si tout le monde marchait?
Anne, vous organisez, et on le comprend bien maintenant, de longues randonnées, disons, des groupes pour bien encadrer les gens qui voudraient se lancer dans cette grande aventure sans nécessairement en avoir l'expérience ou en ayant justement certaines craintes. J'imagine que lorsque vous organisez ces rencontres, ça doit vous animer terriblement. À quoi vous pensez?
Quand je marche?
Non, quand vous organisez justement ces voyages.
Quand on organise ces voyages.
Un an à l'avance, deux ans à l'avance. Vous pensez à qui, à quoi?
Oh mon Dieu, oui. À l'émerveillement qu'on retire du regard des clients. Le regard joyeux, ça se perçoit. Et ça, c'est grâce aux pas qu'ils ont fait, qu'on a amené, qu'on a pris... C'est l'image que je veux dire. On a pris par la main et on a dit, viens, je vais te faire découvrir une partie de toi-même que tu savais même pas que ça existait. Quand on m'avait demandé initialement d'accompagner un groupe en 2014, j'avais répondu automatiquement, là, vite comme ça, non, ça m'intéresse pas. Parce que souvent, on pense que Compostelle, ça se fait toute seule. Et je me suis dit, si on me le demande, c'est parce que je dois avoir quelque chose à découvrir dans cette histoire-là. Alors, le fait d'avoir commencé à organiser des groupes et avec l'expérience, hein, parce que l'expérience, ça s'acquiert. Alors aujourd'hui, avec l'expérience, on sait très bien ce qui émerveille les gens, et c'est ça notre objectif, émerveiller le client, qui reviennent chez lui remplis d'énergie calme. Alors, c'est de découvrir qu'on est capable, parce qu'il y a quand même cette crainte-là avec le mot Compostelle. Là, souvent, les gens ont peur. La première chose qu'ils ont peur, souvent dans l'équipement, c'est les bottes ou les souliers. Je vais me casser une cheville. Oui. Après ça, c'est est-ce qu'il y a de la nourriture? Est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais manquer de quelque chose? Je vais-tu dormir à la belle étoile puis au froid? Tu sais, il y a des craintes attachées à ça. Ben, on est là pour les rassurer de dire non. Et le fait d'organiser le côté technique, ben, tout ça, c'est pris en charge. Donc, on n'a qu'à marcher tranquillement sur le sentier, balisé. Tu sais, si on regarde ça de haut, là, la planète a des chemins qui s'appellent Compostelle, balisé. Et là, vous n'avez qu'à marcher avec un petit sac à dos, avec des destinations de tous les jours, et d'arriver au bout du chemin. C'est tout simple. Cherchez pas plus compliqué, là. C'est tout simple.
Et donc, si je peux me permettre le parallèle, encore une fois, à Seuil, votre projet en devenir, et Compostelle et d'autres marches de longue durée, ce sont des portes ouvertes sur un autre monde. Pour le jeune, c'est de se découvrir ou de se redécouvrir, découvrir une autre façon de voir la vie, le monde. Et pour les gens qui pratiquent de longue durée, pour la première fois et subséquente également, c'est une ouverture sur une autre dimension de leur vie.
Oui. Comme Bernard Olivier, d'ailleurs, il est parti pour le deuil de sa conjointe. Et si on rajoute un autre volet, l'épuisement professionnel, il est tellement majeur aujourd'hui. On est serré comme des citrons. Là. Il n'y en a plus de jus. Là. Arrête d'en chercher, il n'y en a plus. Et ça permet aussi de mettre en, quand je dis un principe névrique, que lorsqu'on y est confronté, il y a une belle phrase qui dit « La vie te demandera plus d'une fois de prouver qui tu es en te démontrant qui tu n'es pas. » La vie te demandera plus d'une fois de prouver qui tu es en te démontrant qui tu n'es pas. Alors, il faut que tu le rencontres, qui tu n'es pas, pour savoir qui tu es. C'est pas en restant chez nous, toute seule, à rien, à ne pas se confronter, qu'on peut apprendre qui on est. Alors, le chemin de Compostelle sert aussi à ça. Autant pour les jeunes qui vont être confrontés à rencontrer un autre univers, d'autres personnes, et d'observer, l'observation de qui on est. Aujourd'hui, je suis contente de on a un très gros écran là, à la tienda, et je mets des voyages là, qu'on voit avec des drones. Là. C'est la caméra, c'est un drone.
Oui.
Avant, on disait à des gens qui ont un problème, ah, t'as le nez sur l'arbre, sors et regarde la forêt à la place. Mais là, avec les drones, c'est qu'on voit que, oui, il y a une forêt, mais il y a autre chose autour. On voit la planète de haut. Alors, je trouve qu'en même temps, Compostelle, ça nous amène cette image-là de faire, comme on dit en anglais, un zoom out de notre vie et dire quel chemin je vais prendre.
Oui.
On ne trouve pas nécessairement les réponses, mais on devient
quelques
dans
pistes.
Un état pour trouver les questions qui vont nous donner la réponse.
Et parlant de réponses, nous prenons une courte pause pour revenir à certains commentaires que les personnes qui vous accompagnent, qui viennent à votre centre La Tienda, ou que vous rencontrez ici et là en marchant tous les jours, quelques réponses, quelques commentaires aux bienfaits de la marche.
Thank you.
Nous sommes de retour, encore une dernière fois, avec Anne Saint-Hilaire. Et j'aimerais poursuivre un tout petit peu la réflexion au sujet de commentaires de personnes qui vous accompagnent, encore une fois, qui viennent au centre La Tienda, en fonction des bienfaits de la marche et surtout peut-être l'aspect physique. Est-ce que les gens de plus en plus qui se mettent à marcher, justement, que ce soit dans votre quartier ou des marches plus longues, est-ce que les gens vous transmettent leurs commentaires que je me sens mieux physiquement?
Mieux et plus joyeux.
Plus joyeux.
Oui. Et ça, c'est vraiment fantastique de le vivre, de le voir. Des gens, parce qu'on fait des marches une fois par mois du mois de mai à octobre, et il y a des gens qui se rencontrent lors de ces marches-là, et là, ils organisent eux-mêmes de se rencontrer sur une base régulière et de marcher. Encore là, comme je dis, c'est le fun quand on a un objectif. Donc, si on a quelqu'un qui nous motive, c'est comme c'est comme un centre de rencontre en même temps. De se motiver, de se sentir plus libre dans la tête, moins compressé. Le cortisol, là, il nous étouffe quand on est stressé. Alors là, on se détend. On est dans le parasympathique, on relaxe. Évidemment, une image qui est facile à voir. Quand je dis aux gens, est-ce que tu veux être un étang stagnant ou une belle rivière qui coule? Ben, la marche, c'est que notre corps à l'intérieur nous permet de devenir une belle rivière qui coule, de faire bouger tout ce qu'il y a à bouger, d'apprendre à respirer en marchant, de faire bouger l'intérieur. Donc, c'est certain. Tu sais, les grands de ce monde le disent, hein, il y a des grandes décisions qui se sont prises en marchant.
Oui, oui.
Et c'est un secret. C'est même pas un secret. C'est la base de l'humain. Si on a l'opportunité d'aller, de marcher, de se lever debout, parce qu'encore là, c'est de la gratitude. Si vous êtes en fauteuil roulant, vous l'avez pas, cette chance-là. Alors, si vous l'avez, la chance d'aller marcher, go, il faut se motiver, il faut aller marcher. Alors, quand on sait le pourquoi, on trouve le comment. Si on a besoin de motivation, ben, on peut dire à quelqu'un, ben, je m'en viens dîner chez vous parce que j'aimerais ça essayer de marcher tant de kilomètres.
Justement, il est plus facile d'aller vers les autres en marchant.
Exactement. Et voilà. Puis la distance, on la voit de façon différente aussi. Alors oui, au niveau de relaxer la tête, hein, on se détend, on fait du bien à notre corps. Je pense que c'est tellement évident.
Et ça nous permet de méditer, justement, dans la détente, de se reposer l'esprit.
Oui, définitivement.
Vous parliez d'une autre façon de voir le monde, et je reviens aussi à un autre bienfait de la marche, je pense, c'est de retrouver l'essentiel.
Oui.
Et il y a justement sur un de vos cartons, et je vais lire la citation, je la trouve formidable. On part d'abord avec l'utile, puis on garde le nécessaire. Au fil du temps, on ne garde plus que l'essentiel et c'est largement suffisant. Et c'est un peu votre mantra, je pense.
Oui, tellement. Merci de le rappeler. Parce qu'encore là, ce que Compostelle nous amène, ou la marche de longue durée, c'est de délester tout ce qui est lourd dans notre vie. Et on se rend compte qu'avec un tout petit sac à dos, on est tellement heureux, parce que c'est une liberté en soi. C'est pas ce que tu apportes, c'est comment tu vas marcher, ton émerveillement. Quand les gens reviennent de Compostelle, ceux qui ont fait 3 semaines et plus, et dans ceux qui ont fait 3 mois, ben c'est certain que quand on revient à la maison, on fait un méchant ménage des garde-robes, puis on se dit, mais qu'est-ce que j'avais à tout à ramasser ça? Ça permet, tu sais, la fameuse expression, à un moment donné, la simplicité volontaire là, qu'on entendait.
Oui,
volontaire, volontaire, il faut vouloir vraiment. Mais Compostelle nous l'apprend en même temps, nous l'imprègne,
nous l'imprime.
Tellement dans le corps, dans la tête, dans l'esprit, parce que c'est la joie. On part le matin avec notre sac. Waouh, comme un enfant. Waouh, on est prête. On n'a pas de gestion de matériel à faire. Et ça fait vraiment une liberté. Fait que oui, l'essentiel, c'est largement suffisant, mais tellement. C'est pas la matière qui rend heureux. C'est le contact humain, la gratitude avec les rencontres, avec les échanges. Parce qu'on a beau... Tu sais, on écrira un livre, puis personne le lit. Bon, on l'écrit pour soi, hein? Mais ça, on écrit un livre qui est publié, puis que quelqu'un lit et que ça peut y changer la façon de voir les choses ou d'en discuter tout simplement, ben là, on vient semer une graine dans le monde en entier.
Est-ce que la marche serait l'ultime liberté?
C'est la liberté la plus accessible, la plus rapide. On se lève, on part. J'ai pas de gestion de voiture, de location, de pneus, d'entretien, de vélo, peu importe. On se lève, on part. Alors, effectivement, c'est le début d'un pas vers la liberté, c'est certain.
Et vous le voyez autour de vous?
Tellement. La gratitude des clients qui reviennent heureux et qui repartent, hein, parce qu'on le dit, attention, on aime ça, on en prend goût et on repart le faire.
Et c'est ce qui animerait probablement votre projet à venir avec les jeunes. C'est ce qui anime sûrement le projet de M. Olivier en France, Seuil. Et c'est une leçon qu'on peut tirer toutes et tous de ce bel exercice qu'est la marche.
Il y a une préparation psychologique à faire avant, il y a une pratique pendant, puis il y a une gratitude après.
Alors, Anne, quelle belle façon de terminer l'émission aujourd'hui. Et pour nos auditrices et auditeurs, je vous rappelle que Marcher vers le bien-être vous est présenté les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h et les vendredis à minuit. Vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées sous l'onglet « Archives du site ». Aussi sur le site jemarchepartout.com sous l'onglet « Radio-VM » où vous trouverez également les références portant sur chaque épisode. Je tiens à remercier encore une fois notre invitée d'aujourd'hui, Anne Saint-Hilaire, présidente et fondatrice du Centre La Tienda à Verdun, que vous pouvez joindre via le site centrelatienda.com. Et à la technique, merci beaucoup à Pierre Desgagnés pour sa très aimable collaboration dans le montage de cette émission d'aujourd'hui. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse avec cette pensée d'Émeric Fisset. Pour moi, le vrai sens du voyage, et notamment du voyage à pied, et dans l'effort personnel qui consiste à se mettre en harmonie avec le monde, la nature et les hommes. Cet effort inutile ne contribue pas de manière spectaculaire à sauver la planète, mais il présente au moins l'immense mérite de ne pas lui nuire, ni de mentir aux hommes qui la peuplent. Car la marche d'abord, par le dépouillement qu'elle implique, par sa simplicité, une démarche de sincérité. Il me reste à vous dire bonne route. Et à la prochaine.